Alors, je présente aujourd'hui donc notre conférencier, que je remercie d'être parmi nous et d'avoir accepté ce thème. Il s'agit de Patrick Moriès, qui va nous parler de la mode et les modes. Il est né en 1952, il est ancien élève d'école normale supérieure. Il a le CAPES de lettres modernes et une thèse de troisième cycle. Il a une carrière d'écrivain, d'éditeur et de journaliste, hein, c'est comme ça que je définirais. Actuellement, il se définit d'ailleurs comme éditeur, mais enfin, il est tout autant écrivain. En 81, il a fondé avec Michel Echter une revue littéraire, Le Promeneur, et participé à la création de la revue Éphémère de Franco Maria Ricci en Italie puis en France. Et il a entamé une collaboration au service littéraire de Libération, qui s'est poursuivie jusqu'en 87. De 82 à 86, il a travaillé avec différents éditeurs italiens et anglais, notamment en collaborant au magazine City et au lancement des éditions Rivage, où il a créé une collection de textes d'esthétique, Galerie. En 87, il participe à la fondation de la maison d'édition Quai Voltaire, et à l'intérieur de la même structure, il a créé les éditions du Promeneur, qui sont entrées chez Gallimard en 1991. Et à partir de 90, il a mis sur pied l'antenne française des éditions d'art britanniques Thames & Hudson, pour lequel il a créé divers ouvrages, parmi les beaux livres qui ont été publiés par Thames & Hudson en français. Je vais le donner dans sa bibliographie. Alors, son œuvre publiée, si vous voulez, en détail, parce qu'elle est abondante, je vous renvoie au site internet de La Mission, hein, et aussi celui de Télérama, mais c'est plus complet sur le site de La Mission, 2000enfrance.com. Donc, des récits, Le Méchant Conte, Gallimard 92, Le Vertige, Gallimard 99, des essais, Second Manifeste Camp, au Seuil en 79, Apologie de Donald Evans au Seuil 82, Le Mondain au Seuil 84, Choses anglaises au Seuil 89, Quelques cafés italiens, Quai Voltaire en 87, Vis oubliés chez Rivage 88, Roland Barthes au Promeneur 1992, Style d'aujourd'hui avec Christian Lacroix, Le Promeneur 95, etc. Les vies remarquables de Vivant Denon, Le Promeneur 98, De petits écrits, Maniériste, aux éditions du Regard, 83, Alexandre Serebriakov, Franco Maria Ricci, 90, Roberto Capucci, édition Franco Maria Ricci. Puis alors là, je passe, disons, plutôt aux beaux livres, des grands livres, qui sont à la fois des livres d'art et des livres d'esthète, on pourrait dire. Christian Lacroix, pêle-mêle, chez Thames & Hudson, 1992, Les bijoux de Chanel, Thames & Hudson, 93, Coquillages et rocailles, Thames & Hudson 94, Christian Lacroix, journal d'une collection, toujours Thames & Hudson 96, le Style Cocteau, édition Assouline 98, la boîte de Boris Cochneau, FZ, Maurice Imbert 99, etc. Je vais lui céder la parole pour nous parler de la mode et les modes, cinquantaine de minutes, et ensuite, comme d'habitude, la réponse à vos questions. Merci.
Mais aussi de le scander. Il n'existe donc, de mon point de vue, que différents moments ou états de mode, différentes modes, si l'on veut, qui se succèdent ou s'opposent. Il n'y a pas d'entité souveraine, générique, essentielle, qui constituerait la mode, à moins de la réduire à quelques fonctions de base, d'ordre essentiellement psychologique. Tout ceci pour vous annoncer qu'il me semble impossible donc, de traiter de la mode hors de l'histoire et que cette dimension historique ou chronologique sera essentielle à mon propos. La mode telle que nous la connaissons prend racine dans les premières décennies du XIXe siècle. En 1824, ouvre à Paris la Belle Jardinière, premier magasin de nouveautés ou de confection, c'est-à-dire d'éléments vestimentaires finis, proposés en série plus ou moins limitée, par opposition à la pièce unique, exécutée par une couturière, souvent itinérante. On comptera 190 magasins à cette enseigne en 1840, et 322 une quinzaine d'années plus tard. La belle jardinière est l'un des premiers négoces répondant aux nouveaux besoins des classes moyennes. Elle précède les autres enseignes qui surgissent à échéance régulière, comme le bazar Bonne Nouvelle qui ouvre vers 1840, le Bon Marché en 1849 ou le printemps en 1865. Développement de nouveaux marchés que célèbrent symboliquement les expositions universelles de Londres 1851 et Paris 1855. Des besoins nouveaux, une clientèle accrue, d'autres modes de production s'imposent qui vont dans le sens d'une progressive standardisation, d'une offre toujours plus riche et de la recherche de la nouveauté dont nous subissons toujours et toujours plus les effets. En 1828, un marchand de soie nommé Gagelin ouvre pour sa part une boutique rue de Richelieu destinée à rester longtemps synonyme de goût et de raffinement. Un jeune Anglais y fera ses débuts et il s'appelle Charles Frederick Worth. C'est en lui qu'on s'accorde à reconnaître, comme l'on sait, l'inventeur de la haute couture, fournisseur ou artisan qui prétend pour la première fois à un tout autre statut, celui d'artiste peut-être, et qui prête immédiatement à la caricature. Je cite, « J'ai le sens de la couleur de Delacroix et je compose », avance-t-il pompeusement sous la plume de Taine. Worth impose tant sa vision que la notion d'ensemble vestimentaire. Il inverse l'ordre des choses, prévaut sur sa cliente, là où cette dernière jusqu'alors prévalait. Avec l'ouverture de son magasin rue de la Paix en 1858, se fixent les deux pôles essentiels de la mode au sens moderne. La diffusion en nombre, ses conditions, ses diktats, d'une part, le créateur, entre guillemets, son mythe et sa valeur d'image de l'autre. En une séquence étonnamment courte, Worth est de fait à l'origine de la mode qui nous entoure. C'est que la mode procède volontiers par opposition, par couple d'action et de réaction, et qu'on peut ainsi esquisser une série dialectique qui mène jusqu'à nous. C'est contre lui, en effet, et la rigueur du corset, centrale dans sa mode, que se pose Poiret, prenant la fluidité de ligne et la liberté de mouvement. À l'orientalisme et à la relative exubérance de ce dernier s'oppose Chanel, adepte de l'économie de moyens, de la discrétion, valeur toujours relative, et du détournement des codes. Andro ou monogynie de la coupe et des matières, chère à Chanel, que vient relever le new look de Dior, marquant le retour d'une silhouette dessinée, d'une taille marquée, d'un corps contraint. Vision que périmera à son tour la silhouette futuriste des années 60, dont les proportions sont plus proches de celles de l'adolescente que de la femme mûre, etc. L'opposition entre un corps libre, dégagé et un corps contraint joue un rôle central et récurrent dans la mode. Pour vous donner un exemple, un certain James Malcolm s'interrogeait à Londres en 1867 déjà sur l'état de la société et déclare « Les dames ont enfin, et cela est tout à leur honneur, rejeter ces tentatives haïssables de remédier aux déficiences ou omissions de la nature que sont les rembourrages et les tournures. Elles nous apparaissent maintenant avec toute la grâce et les proportions qui sont l'apanage naturel de la femme anglaise. » Naissance du vêtement standardisé, surgissement du créateur, dialectique de la silhouette, voici déjà pour quelques axes de définition, définition que nous pourrions dire technique ou historique de la mode. Parallèlement, s'en affirme une autre, littéraire. C'est dans la première moitié du XIXe siècle, une fois encore, que paraît une série de textes essentiels dont la mode est l'objet déclaré. La toilette est tout à la fois une science, un art, une habitude, un sentiment, affirme Balzac dans le Traité de la vie élégante en 1830. De Georges Brummel et du dandysme, Barbé d'Orvilly, suit en 1844. Gautier publie De la mode en 1858 et Baudelaire, le peintre de la vie moderne, 5 ans plus tard. Mallarmé ponctue la séquence avec les 8 numéros de La Dernière Mode, qui était un magazine, entre le 6 septembre et le 20 décembre 1874. Texte majeur que relaient dans le temps d'autres textes moins importants, tels que La physiologie de la Parisienne de Taxile Delors en 1841 ou Les femmes d'Alphonse Karr en 1853. Balzac, comme Michelet et plus tard Proust, notait Roland Barthes, postule une langue du vêtement. Il considère cette réalité, invisible d'être trop visible, comme lourde de sens. Ils y voient surtout un symptôme, le symptôme d'une transformation sociale. La mode s'affirme ici comme véritable objet esthétique. Expression par excellence de l'artifice, dans son opposition à une nature dont le non-sens, la bêtise profonde serait l'attribut, elle trouve une incarnation suprême dans la figure du dandy, lui-même défini par son opposition à l'anonymat et à l'abêtissement de la foule. Sont ainsi posés les termes essentiels de ce que Gautier, le premier, nomme de ce qui est alors un néologisme, la modernité. Emblème du monde flottant, soumise au renouvellement incessant des apparences, à la loi du caprice, au culte de la nouveauté, c'est-à-dire aux variations et aux aléas de la marchandise, la mode apparaît aux yeux des littérateurs du XIXe siècle comme l'expression parfaite d'un monde dont la substance se réduit désormais aux apparences, aux matières, à une surface toujours changeante. Elle appelle naturellement le parallèle avec l'art, qui cherche aussi à ce moment à peindre, c'est une citation de Mallarmé, non la chose, mais l'effet qu'elle produit, ou son impression sur le spectateur. Expression d'un nouvel idéal, elle est aussi ce qui s'oppose aux valeurs utilitaires de la bourgeoisie. Elle n'a d'autre justification immédiate qu'elle-même, que le plaisir, elle se produit en pure perte. C'est, je cite Barthes à nouveau, une mode oisive, luxueuse, mais qui a le mérite de se déclarer comme une forme pure. En ce sens, elle rejoint la littérature. Exercice profond sur le thème mallarméen du rien, du bibelot, de l'inanité. C'est un vide qui n'est pas absurde, un vide qui est construit comme un sens. S'établit ainsi une véritable tradition littéraire, une écriture de la mode qui se prolonge de relais en relais tout au long du siècle suivant, c'est-à-dire du nôtre. Valéry écrit sur Madame Gray, Gertrude Stein sur Balmain, Cocteau et Morand sur Chanel, Louise de Villemorin sur Dior, Chanel, Lanvin, la liste est longue. Écrit de circonstance, écrit secondaire, pourrait-on supposer, en quoi l'on aurait tort? Car il s'agit d'une première forme, d'un premier temps de légitimation culturelle de la mode, telle que nous la considérons aujourd'hui. Dans le sillage de l'approche mallarméenne, l'écriture de la mode se veut d'abord une écriture de la formule, de la pirouette, du paradoxe, de la légèreté. L'une, la légèreté du chiffon, réfléchissant et justifiant l'autre. Les notes et maximes sur la mode, publiées par exemple par Francis de Miomandre en 1927, offrent un modèle du genre. Je le cite à titre d'exemple. Au fond, la mode n'a qu'un seul adversaire en ce bas monde, le métaphysicien. Au nom de la certitude immobile, il récuse ce mouvement et cette inquiétude. Mais c'est la vie même qu'il condamne avec elle. Et déjà, son collègue, le psychologue, moins farouche, fait des coquetteries à la fugace déesse. autre écrivain du même genre, Cocteau, la mode meurt très jeune et cela l'éclaire d'une sorte de phosphorescence, d'une rougeur aux joues qui nous émeut. Elle est condamnée depuis sa naissance. Elle est presque morte avant de vivre. Elle doit jeter son bouquet d'un seul coup, sans reprise. La mode appartient dans ce contexte à un véritable domaine réservé. C'est un objet naturellement élitaire, appartenant à un cercle social et culturel que lie une communauté d'intérêts et qui se donne comme modèle lointain et fascinant. Il faudrait étudier en détail, et cela dépasse largement les limites de cette intervention, le milieu qui, durant toute la première moitié du siècle en France, assure une certaine continuité à ce discours de la mode. Chanel, Cocteau, Dior, Bérard, Les Noailles, Marie-Blanche de Polignac, qui est la fille de Jeanne Lanvin, Charles de Bastegui, Salvador Dali, des gens moins connus comme Lise de Harme, les cercles surréalistes, ceux de Picasso, la donne mondaine et artistique reste étonnamment stable des années 20 et même un peu d'avant à la fin des années 60, assurant une définition du style et de l'élégance qui est aussi celle de la mode du moment. Il n'y a pas de hasard à ce que les derniers représentants de ce monde, que sont Marie-Laure de Noailles, Émile Othéry ou Charles de Bastegui, disparaissent tous en quelques mois autour de 1970. Commencé 10 ans plus tôt et publié en 1967, le système de la mode de Roland Barthes marque une rupture du discours sur et de la mode. Elle se produit, cette rupture, historiquement, au moment même où meurent donc ces derniers témoins et où se redéfinit et se développe à une nouvelle échelle le prêt-à-porter. Ce moment est celui d'une ouverture des moyens de diffusion et il marque les prémices d'une médiatisation dont nous voyons à présent le plein effet. L'approche de la mode change donc chez Barthes radicalement. Je cite un extrait de sa préface. « Ce qu'on a voulu avant tout, c'est reconstituer pas à pas un système de sens. Loin de se situer dans un empiré tant littéraire que social, la mode appartient désormais aux objets culturels, porteurs de sens comme tant d'autres. On peut dire, postule Barthes, que toute la culture, au sens le plus large, tombe sous le coup d'une science des significations. Les objets les plus utilitaires en apparence, la nourriture, le vêtement, le logement, et à plus forte raison, ceux qui ont le langage comme support, comme la littérature, bonne ou mauvaise, les récits de presse, de publicité, etc., appellent une analyse sémiologique, c'est-à-dire une analyse de sens. D'un même mouvement, comme on le voit, la mode, langage du vêtement, est légitimée comme système et est rabaissée, si l'on veut, au même rang que d'autres systèmes de sens. La mode passe définitivement du registre du frivole ou de l'insignifiant à celui de la signification et de l'exemplarité sociale et historique. Il fallait, explique Barthes, essayer de donner un contenu technique et non plus métaphorique à ce qu'on appelle trop facilement des langages, langage du vêtement en l'occurrence. Bon, vous voyez qu'un pas a été franchi avec Balzac, justement. Il y a plus. Une fois posée cette règle ou ce programme, s'impose une autre évidence ou un autre postulat. Je cite, « Le vêtement, pour signifier, peut-il se passer d'une parole qui le décrive, le commente, lui fasse don de signifiant ou de signifié assez abondant pour constituer un système de sens ?» La réponse est non, bien sûr. Le postulat est donc double. La mode n'est pas seulement un langage à établir ou rétablir dans ses droits, dont on doit établir et retrouver la grammaire et les règles. Elle est aussi immédiatement faite de langage, constituée de mots, d'unités linguistiques qui nourrissent et masquent tout à la fois un réseau de motifs imaginaires. Nouvelle citation. Le système du vêtement réel n'est jamais que l'horizon naturel que la mode se donne pour constituer ses significations. Or, la parole, il n'y a point de mode essentiel. Et plus précisément encore, c'est un point important, je pense, pourquoi la mode parle-t-elle si abondamment le vêtement ? Pour omnubiler la conscience comptable de l'acheteur, il est nécessaire de tendre devant l'objet un voile d'image, de raison, de sens, d'élaborer autour de lui une substance médiate d'ordre apéritif, bref, de créer un simulacre de l'objet réel en substituant au temps lourd de l'usure un temps souverain, libre de se détruire lui-même par un acte de potlatch annuel. Il faut lire de près ces deux citations dans la mesure où elles expriment parfaitement, me semble-t-il, les avancées et les limites de toute une période et d'une façon de penser, disons approximativement celle des années 68-78, tout en contenant l'annonce des développements ultérieurs. Elles supposent, donc ces citations, l'accentuation du culturel aux dépens du naturel, ou plutôt le rejet de l'idée même de nature, dont la définition serait profondément idéologique. Elle suppose aussi la vision d'une réalité constituée par conséquent de systèmes de signes, l'affirmation de la qualité langagière de ces systèmes, à commencer par celui du vêtement et de la mode, ce qui pourrait sembler paradoxal a priori. Elle suppose l'emprise de l'imaginaire sur la réalité, en guillemets, qui fait surgir ces simulacres de l'objet réel, et la nécessité, par contre-coup, d'un regard critique, d'une distance entre le regard et l'objet, qui évite la collusion, la fusion imaginaire, l'asservissement au simulacre, lui-même effet des règles du marché. Toute chose que la période suivante, disons les années 80, ou ce qu'on a appelé les années 80, choisira d'oblitérer, privilégiant la jouissance de ce que Barthes appelle le simulacre, sur sa mise à distance, la fétichisation de la mode comme telle, c'est à ce moment qu'on s'est mis à parler de mode de la mode, les valeurs de consommation et de l'apparence vécue, selon les sociologues, comme réalisation de soi dans une culture du narcissisme, c'est le titre d'un livre qui a marqué ce moment-là, toujours plus internationale et égalisatrice. Si je reprends ce que je vous ai dit jusqu'à présent, Approche littéraire de la mode, de Mallarmé à Villemorin, dont l'hyperbole retomberait à la fin des années 60, Approche sémiologique des années 70, ces démarches auraient en commun, au-delà de leurs différences, sinon même de leur opposition, d'insister sur le lien intrinsèque de la mode et du langage, constituant la première en objet de langage ou en système de signes, en motif de description ou en ensemble à décrire et à décrypter. Le changement de perspective est radical, me semble-t-il, avec les décennies suivantes, ou les décades suivantes, qui sont les nôtres. À mesure que se modifie le niveau de vie, que s'exprime, selon les sociologues toujours, une dynamique égalitaire, que se diffuse un désir de mode, s'affirme de façon toujours plus exclusive la dimension, cette fois-ci, visuelle, dimension proprement imaginaire, de l'économie générale de la mode. Un futur historien des années 80 pourra aisément recueillir les symptômes de cette transformation substantielle. Il suffit de considérer, entre autres phénomènes, la redéfinition de la place de la mode dans la presse quotidienne, l'importance qu'on lui accorde progressivement, l'inflation temporaire des revues qui lui sont consacrées, sa montée en puissance ou en espace dans les médias audio et télévisuels, sa vogue à ce moment-là dans le marché de l'édition, que cristallise l'apparition en rafale des normes hagiographiques ou de collections thématiques sur ce sujet. Nulle distance ici, le simple défilé ininterrompu d'images prolongeant ou déclinant à l'infini la suite de tableaux dispensés à échéance régulière par les défilés. Divers facteurs permettent d'expliquer ou de justifier partiellement cet état de choses. C'est progressivement, à partir de la fin des années de guerre, que se modifie la réalité économique de la mode. Le trajet, ou la personne même de Christian Dior, pourrait servir ici de cas d'école. Par son goût, sa culture, sa première carrière de marchand de tableaux, il appartient de plein droit, en effet, au cercle restreint, littéraire et mondain, dont j'ai souligné l'importance et la cohésion. Sa couture et sa haute couture est pour ainsi dire consacrée par le scandale du New Look dans les années 50. Scandale d'une dépense ostentatoire que représentent les longueurs de métrage nécessaires à un moment de relative pénurie aux jupes évasées dessinées par le couturier. Pour vous montrer que je n'exagère pas, enfin, il ne s'agit pas d'une exagération, je vous montre une photo prise par Walter Caron dans ces années-là, qui montre des passantes déchirant la robe d'une des... Donc c'est la photo du haut, cette photo-là, déchirant la robe d'une passante qui est une des premières à porter le new look, parce qu'elles sont, elles n'admettent pas évidemment la dépense représentée par cette robe-là. Les références de Dior sont qui plus est profondément nostalgiques, allusives, cultivées. Mais Dior est aussi, par un tout autre aspect de son activité, et c'est là qu'il est représentatif, l'homme de Marcel Boussac, l'associé d'un industriel du textile dont la griffe se développera parallèlement sur l'axe du prêt-à-porter, c'est-à-dire d'une mode qui se définit par sa diffusion et ses licences, ainsi que par une nécessité de renouvellement régulier, programmé et ininterrompu. Exemple charnière qui donne à lire, comme en raccourci, l'évolution de la mode durant la seconde moitié de ce siècle. Jean-Charles Veil forge le terme de prêt-à-porter en 1948 et le chiffre d'affaires de ce secteur passe de 40 milliards de francs en 1950 à 100 milliards en 1961. Bon, il doit être aujourd'hui beaucoup plus considérable. L'importance relative des deux pôles, haute couture d'une part, prêt-à-porter de l'autre, tend à s'inverser à partir de ce moment. À mesure que se réduit la clientèle de la haute couture, qui ne compterait plus aujourd'hui qu'un petit millier de clientes, se limite son pouvoir de prescription et d'innovation sociale, jusqu'à ce qu'elle n'apparaisse plus aujourd'hui que comme un signe ou un écho en voie de perpétuelle extinction dont on annonce toujours la disparition. Écho d'une autre réalité, autrement importante, celle des parfums et produits de large diffusion auxquels elle sert d'étendard ou d'alibi médiatique. Bruno Durosel, qui est un spécialiste de la question, a justement souligné le rôle joué dans cette transformation par un mot, une notion inédite jusqu'au début des années 60, celle de style et de styliste qui règne aujourd'hui. Mot qui, écrit-il en 1980, moment où il a publié son livre sur le sujet, ne veut strictement rien dire en lui-même, c'est une citation, et vient peut-être de l'anglais stylist, qui désignait les premiers créateurs de vêtements pour jeunes. Vêtements pour jeunes, c'est un détail qui n'est pas sans importance, évidemment. L'apparition du styliste signe en tout cas une opposition claire. La haute couture vise, écrit-il, à la perfection. Elle cherche une pièce unique pour un corps unique. C'est un fragment d'essentiel dans l'économie du fugace. Le style, là je le cite à nouveau, c'est tout autre chose. C'est l'idée à l'état brut, la spontanéité créative, l'apport subi d'un nouveau tissu, d'un nouveau coloris, d'une nouvelle forme. Sans doute on construit aussi le vêtement, mais le souci de perfection est secondaire. Il faut que l'idée proposée fasse choc. Si on reprend cette citation, nouvelle forme, nouvelle couleur, effet de choc, vous devez noter la prééminence des connotations visuelles dans cette analyse. La transformation amorcée par Gérard Pipard dès 1959, puis par Christiane Bailly, Emmanuel Kahn ou Cacharel, qui sont donc ses premiers stylistes, connaît un second temps d'accélération 10 ou 15 ans plus tard. C'est le moment de Chloé, Kenzo, Castelbajac, avant de tourner aujourd'hui à plein régime. Divers facteurs accompagnent ou expliquent cette nouvelle ouverture. L'amélioration générale du niveau de vie, la redéfinition des rapports de classe dans la société, l'importance donnée au corps, une juvénilisation générale, la mise en question des pôles masculins et féminins, l'image et l'affirmation des minorités ethniques et sexuelles, la valorisation de l'hédonisme, l'universalisation des échanges culturels et commerciaux, etc. Cette accumulation de données finira par modifier à nouveau l'équilibre de la couture et du style, ou de la haute couture et du prêt-à-porter. À l'origine réservée au cercle des clientes, des relations mondaines et des journalistes, les défilés de mode en général, prennent entre 1970 et 1980 une ampleur disproportionnée, au point de susciter, comme vous le savez, l'émergence d'un lieu propre à l'intérieur des galeries du Louvre. Ils deviennent, ces défilés, progressivement, de purs moments médiatiques, des rituels de société. Supposés suivre, selon le modèle ancien, le système des saisons, printemps, été, automne, hiver, ils ne présentent plus, en fait, qu'un ensemble de tendances, parfois consonantes, parfois contradictoires, la société ne suivant plus le rythme strict des saisons, les codes et obligations ayant disparu. Seule nécessité réelle, en fait, qui justifie cet état de choses, celle de proposer à intervalles réguliers de nouveaux produits ou d'assurer l'effet de marque, le maintien d'un nom et d'une image sur l'échiquier du désirable. On passe ainsi allègrement sur la contradiction dans les termes que représente l'idée d'une créativité programmée, obéissant au seul temps de la nécessité marchande. C'est qu'il est sans doute trop tard pour reculer. Tout se tient dans cet ensemble, autant médiatique, désormais, que financier. Le travail du styliste, entre guillemets, est là pour nourrir et justifier une batterie d'appréciation ou une parodie d'évaluation, occupant la rubrique des grands quotidiens, nourrissant la presse et se prolongeant dans l'image télévisuelle. On pourrait arguer, entre parenthèses, que l'écriture de mode s'est ainsi déplacée de la lecture critique sémiologique vers un jeu de métaphores exacerbées, rendant poétiquement, si l'on veut, compte des défilés, d'une part, et de l'autre, vers un simulacre d'estimation, une distribution de palmarès, dessinant des degrés sur l'échelle d'un mérite dont le critère n'est jamais fondamentalement discernable. Je referme la parenthèse. L'accélération, c'est-à-dire avant tout le rapport au temps de la marchandise, est sans doute, avec le rapport à l'image, l'une des deux variables majeures de la dernière mode ou du dernier état de la mode la plus présente. Reprenons l'exemple Dior. La mode de la maison est confiée au moment de la disparition prématurée de Dior en 1957 à Yves Saint-Laurent, dont le travail entre le moment où il crée sa propre maison quelques années plus tard, en 61, et celui où il s'en retire progressivement en 2000, 40 années plus tard, semble prolonger directement dans ses valeurs et sa pratique celui de Dior. Mais comme on le sait sans doute, la saison la plus récente, celle du prêt-à-porter 2001, qui a été montrée en octobre 2000, aura été marquée par le passage de témoin entre l'équipe fondatrice de la Maison Saint-Laurent et une autre, menée par un styliste qui s'appelle Tom Ford. Le passage où la cassure est une nouvelle fois exemplaire. Le crédit de Tom Ford ne lui vient pas en effet de sa capacité d'invention propre ou de virtuosité technique, mais essentiellement du fait d'avoir redressé ou recréé l'image d'une autre firme à partir de 1995. La modification radicale du champ de la mode ces 5 dernières années se traduit par un nouveau glissement de vocabulaire. Au styliste ou au créateur succède ou s'oppose désormais le directeur artistique. Alors je cite, « Les créateurs, pouvait-on lire dans un article de Libération cet automne, se sont mués en directeurs artistiques. Leur tâche, dessiner la collection, mais aussi, et sans doute surtout, superviser les licences, c'est-à-dire tous les produits dérivés, comme la publicité, afin d'unifier l'identité de la marque. Ce qui n'était sous la plume de Barthes qu'un voile d'image de raison ou de sens, une réalité d'ordre apéritif, devient la dimension primordiale et donnée comme telle de la mode. Le vêtement n'est qu'un maillon dans une chaîne qui comprend aussi bien le design des produits dérivés que la campagne publicitaire et la scénographie des boutiques. Image qui se doit, comme toute image, d'être un tout. Elle est, je cite Libération toujours, homogénéisée de Londres à Tokyo. La cohérence des univers de marketing y est toujours plus forte. J'ajouterai expansionniste, si l'on en juge à la récente annexion, par exemple, à Paris, du quartier Saint-Germain-des-Prés, destiné à se transformer en lieu de passage international. Cette annexion parachève la dérive géographique des firmes de mode qui étaient au départ situées sur la rive droite, puis sont passées sur la rive gauche, et qu'a analysé en son temps Pierre Bourdieu. L'évolution traduit aussi et surtout sans doute l'affrontement de pôles industriels qui cherchent avant tout à développer à l'échelle mondiale les marges bénéficiaires des produits de luxe. Concentration, standardisation et capacité à peser sur les médias sont les variables de cette nouvelle donne. À présent, je cite toujours les journalistes de Libération, on est dans la tendance. Donc tendance est le mot. Pour se démocratiser, les griffes de luxe ont cessé d'être le creuset d'un savoir-faire et se sont muées en marques de mode. Il n'y a pas de hasard, une fois encore, à ce que les marques de pointe, justement, dans la mode actuelle, soient à l'origine des firmes de maroquinerie, excellemment dirigées, comme Vuitton, Prada ou Gucci. C'est que le leurre connaît plusieurs crans. L'image fait vendre la mode, mais plus encore, la mode fait vendre l'accessoire. La force des grosses structures, déclarait un professionnel au journaliste de Libération, c'est qu'avec un outil de fabrication et une distribution optimisée, si un article marche, on en vend des tonnes. Cette volonté d'uniformisation avouée répond et semble accomplir toujours plus profondément l'une des deux pulsions fondamentales de la mode, selon Georg Simmel, qui est un sociologue et un philosophe du début du siècle,
et qui est en général suivi par la plupart des sociologues et des philosophes. Je parle de la définition. Donc pour eux, il y a deux pulsions essentielles dans la mode, et la première est celle-ci, l'aspiration à l'universel, l'individualisation par l'imitation, la fusion dans une appartenance symbolique qui implique un apaisement des tensions psychologiques, l'idée de se fondre dans un modèle, si on veut. La mode suppose paradoxalement, de ce point de vue, de se ou de s'y retrouver plutôt que d'affronter l'inconnu. On pouvait lire ainsi dans un article du Monde de cet automne que la silhouette de l'été 2001, que vous verrez donc l'année prochaine, se dessine entre lignes aiguisées très 80 et volumes ronds empruntés aux années 50. Tandis que se multiplient les emprunts à Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Hasdin Alaïa et même Claude Montana, c'est-à-dire des couturiers des années... Enfin, des couturiers, ils le sont toujours, mais des gens qui ont marqué les années 80. Mode collage qui joue explicitement de la mémoire quasiment immédiate, mémoire des clients comme des créateurs, et des contrastes toujours plus serrés des générations. De même, est-il significatif que la première manifestation publique de Tom Ford chez Yves Saint Laurent n'ait pas concerné la mode comme telle, mais l'image publicitaire d'un parfum. Message universel, centré sur l'image d'un nu féminin. Image évidemment accrocheuse et qui suppose ironiquement l'acception de la mode par son contraire même, la nudité. C'est que la mode de Ford, emblématique du moment, se joue moins autour des valeurs d'innovation ou d'invention, comme je vous l'ai déjà dit, qu'autour des valeurs de séduction, d'une érotisation du corps et du vêtement qui offre une plus-value imaginaire immédiate. Vous connaissez cette image, je pense, parce qu'elle est extrêmement diffusée dans la presse. Si vous voulez la regarder une seconde, si on l'analyse par degrés, je pense que, dans un premier temps, ce qui s'impose dans cette image, c'est la blancheur du corps. C'est la blancheur d'un corps étendu et le contraste avec ce fond, un fond bleu nuit, velouté. C'est-à-dire que s'affirme dans un même moment le corps, au même moment où il est effacé. Il est là, mais en même temps, il n'a rien d'obscène ou de trop sexuel. Il est offert et retiré dans un même moment. Dans un second temps, je pense qu'on voit plutôt quelques détails, donc ce qui n'est pas le corps, et qui sont des bijoux, un maquillage, une chevelure et un talon aiguille. C'est-à-dire des notes de sensualité proches de la vulgarité. Il y a un jeu limite, une fois encore, cette fois-ci, entre ce qui est acceptable culturellement et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est raffiné et ce qui est considéré comme vulgaire, ce qui est la définition même de la séduction ou du désirable. Incidemment, on vous glisse un autre message, c'est que c'est la morphologie de ce corps qui marque une nouveauté. Parce que le modèle, c'est un modèle qui s'appelle Sophie Dahl, se caractérise par, disons, ses formes. C'est un corps qui s'oppose au corps qui a régné dans la mode pendant 5 ou 10 ans, qui était un corps plutôt androgyne, sans forme. On réaffirme, on réintroduit là un nouveau type de corps. Mais c'est un message subsidiaire, si l'on veut. Dans un troisième temps, et je dirais enfin, vous avez le nom du parfum et le sigle du couturier, l'un servant à faire vendre l'autre. Mais tout ceci, évidemment, n'apparaît que dans le dernier temps de la lecture. Donc, tout ça pour vous montrer que cette idée de la prééminence des valeurs de séduction dans la mode présente. Face à ce que l'on pourrait appeler la tendance lourde, celle-ci de la mode actuelle, qui se donne pour unique critère et pour aune de reconnaissance la sanction commerciale, et l'extension géographique la plus grande, s'affirme un courant contraire qui retrouve l'autre pulsion de mode selon Zimmel. C'est-à-dire non plus cette fois la fusion dans un modèle, mais l'aspiration au contraire au singulier, la volonté de marquer une différence, un signe propre, une signature qui s'oppose à la griffe universelle. Pulsion active, si l'on veut, face à la tendance passive à l'imitation. Alors, dans ce registre-là, c'est la recherche de la pièce unique, de ce qu'on appelle « vintage », en anglais, c'est-à-dire la pièce originale, à tous les sens du mot. C'est, encore une fois en anglais, parce que la mode parle anglais, la « customization », c'est-à-dire l'accessoirisation au sens large, l'application de motifs ou de valeurs ajoutées sur le vêtement comme l'accessoire. C'est, encore une fois, face au développement des grandes marques qui ont une puissance de feu ou de publicité écrasante, je cite toujours ce fameux article de Libération, une politique de niche et le développement d'un savoir-faire souvent artisanal destiné à des cibles spécifiques. La haute couture pourrait apparaître comme le lieu naturel d'une telle politique de niche. Mais c'est à présent le prêt-à-porter lui-même qui est traversé par une opposition entre ces marques universelles, centrées sur la gestion d'un capital financier, et le prêt-à-porter de créateur, entre guillemets, plus proche de la tradition du métier, qui cherche moins à s'adapter ou à répondre à la demande, comme la première formule, qu'à proposer des formes nouvelles ou à définir un style propre, marquant un trajet singulier, avec tous les risques que cela comporte. Ainsi polarisé, tendu entre ces deux extrêmes, ça pourrait être le commercial et le créatif, si vous voulez, la mode actuelle semble avoir achevé le cycle inauguré avec la grande rupture du prêt-à-porter des années 60. Ces valeurs sont analogues, souci du corps, culte de la jeunesse, volonté de renouvellement rapide, mais elles sont, pour ainsi dire, surexposées. Et l'accélération des cycles, l'ouverture des marchés, l'uniformisation, pour ne pas dire la mondialisation des références, ont pour effet de subordonner les propositions nouvelles au gain de productivité et à la satisfaction d'une demande moyenne. Sous ce seul aspect, déjà, et j'entame la conclusion, là où les modes d'aujourd'hui font l'épreuve d'un partage présent dans bien d'autres économies culturelles, celles de la littérature comme de la peinture par exemple, qui sont elles aussi divisées et soumises à de comparables différences de pression ou de densité économique. Je n'ai pas abordé jusqu'à présent la question controversée du statut culturel de la mode, bien que j'en ai parlé incidemment tout au long de cette intervention, objet qui tient à la fois de l'artisanat, de l'art, du commerce, de la culture haute et de la culture basse. Car il faudrait déjà s'entendre sur la définition et l'existence même de ce « haut » entre guillemets et de ce « bas », de l'art pur et de l'art appliqué. Opposition qui empêche, à mon sens, de lire ou de voir bien des textes esthétiques et qui est elle-même soumise à des fluctuations, à des différences d'appréciation et à des modes. Il me semblerait préférable donc, de mon point de vue, de rendre à chaque forme d'expression et de les ranger si on en a besoin, donc de rendre à chaque forme d'expression son degré de complexité, de richesse allusive, de densité poétique, de multiplicité de significations, et de les évaluer, pour emprunter un terme nietzschéen, en propre. Sans doute en sommes-nous à présent à placer dans nos hiérarchies la mode près des arts décoratifs, catégorie elle-même soumise à discussion. Tout cela mis à part, donc, force est de constater que la mode est aujourd'hui partagée par la même tension que l'on retrouve, comme je vous le disais, dans bien des domaines de la culture haute. Et vous me permettrez, pour conclure, de laisser ce constat à votre réflexion.
J'ai beaucoup aimé naviguer avec vous dans cet univers. Et je n'ai pas tout à fait saisi la pointe sur laquelle vous nous laissez. Et est-ce que vous pouvez la reformuler ?
Voilà. Bon, c'est en effet que si je l'ai laissé en suspens de ce point de vue, c'est que d'une part, je n'ai pas de réponse, et que les gens un peu pervers qui m'ont invité ici m'ont donné un intitulé sans me dire du tout ce qu'on pouvait mettre sous cet intitulé. Simplement, je crois que le module, il me semble, concerne ce qu'on a, culture haute et culture basse, où il y avait quelque chose de ce genre. Donc, en fait, les hiérarchies ou la place que l'on donne aux différentes formes d'expression dans la culture en général et dans la société. C'est vrai, et ce débat est infini, il est toujours ouvert, si vous voulez. Donc, sur cet aspect-là, moi, je n'ai qu'une réponse personnelle, dont je ne sais pas si elle est valide ou non, c'est que tout mon travail personnel a consisté quand même à réévaluer des artistes ou des artisans. Moi, je ne fais pas trop de différence entre l'artisan et l'artiste, d'un certain point de vue. Et donc, je pense que on est prisonnier déjà de ce partage entre haut et bas qui est très difficile à définir, sinon impossible à définir. J'imagine que vous aurez d'autres éléments de définition dans les autres interventions qui viendront dans ce module-là, sur ce thème-là. Donc le fond provisoire de ma pensée, c'est que la mode n'est sans doute pas un art, ou elle est un art, ou elle en est un, mais c'est un art qui n'a pas la complexité de signification et la richesse de certaines formes de peinture certaines formes d'expression littéraire, mais elle est quand même l'expression d'un individu. Donc elle appartient, de mon point de vue, à l'échelle artistique, disons. Voilà. Simplement, beaucoup de gens, c'est pas une opinion qui est généralement partagé, et c'est quelque chose qui est très ouvert à polémique. Donc voilà, moi j'ai une opinion personnelle, mais elle n'est que ça, si vous voulez. J'y tiens, et c'est ce qui a inspiré mon travail, comme je vous l'ai dit. Simplement, c'est un objet de débat en lui-même. Il faudrait plusieurs conférences de ce genre pour donner tous les éléments de discussion de ce point de vue. Donc vous ferez votre opinion.
Je voulais vous poser deux questions. La première, vous vous êtes cantonné volontairement aux vêtements et à l'époque relativement moderne, puisqu'on pourrait citer les Incroyables au 18e, etc.
Oui, parce que oui.
Et je voulais vous demander pourquoi. Et ma deuxième question, c'est que quelquefois le mot mode a une connotation péjorative qui évoque les moutons de Panurge. Et j'ai notamment, en particulier, au sujet de la langue. Agege, dans une émission de télévision récente, a dit que même dans les conseils d'administration des grandes sociétés françaises, on parlait anglais, alors que ce n'était même pas justifié pour des raisons de marketing. Qu'est-ce que vous pensez de cette connotation péjorative ?
Connotation péjorative, on retrouve la question que m'a posée ce monsieur, c'est-à-dire que en effet, la mode est plutôt considérée, en dépit de ce que je vous ai montré, parce que c'est un objet qui existe, qui a une dignité culturelle, disons, depuis le 19e, même avant, mais une dignité qui est la nôtre depuis le début du 19e siècle. Donc, bizarrement, il faut toujours défendre la mode ou dire que ce n'est pas une réalité ou une forme d'expression insignifiante, et c'est un combat qui me semble nécessaire de mener, si vous voulez. Donc voilà pour la définition négative entre guillemets de la mode, parce que il y a plusieurs aspects à cette réponse. Comme je vous l'ai montré, c'est que la mode, d'une part, n'existe pas en soi, elle est liée à des cercles culturels d'autres domaines. Quand on voit ce qui s'est passé et qui continue d'ailleurs à se passer, mais j'ai forcé la touche, si vous voulez. Mais, donc, le lien qu'avait Bérard avec Dior, enfin Dior avec Bérard, Chanel, etc. Donc la mode appartient de plein pied à certains cercles culturels qui sont considérés, eux, comme valides. Elle n'a rien d'indigne, si l'on veut. Et d'autre part, elle est quand même... Elle reste quand même un foyer d'innovation, ou de, même si c'est pour des raisons purement commerciales, elle est quelque chose qui doit se renouveler, où on doit proposer de nouvelles formules, qui sont encore une fois plus ou moins valides, plus ou moins acceptables. Donc voilà pour une partie de votre question. Pour l'autre, pourquoi je n'ai pas parlé de la mode qui existe évidemment, au fond, depuis toujours? C'est simplement que 50 minutes lues, c'était déjà très long pour vous, et que il fallait essayer de dessiner un objet qui ait une cohérence, si vous voulez. Et que, encore une fois, je pense que la mode, comme je vous l'ai dit au début, telle qu'on la voit maintenant, existe depuis la fin de l'Ancien Régime, parce que les données de la mode auparavant n'étaient pas les mêmes. La mode auparavant était liée quand même à la cour, au modèle que donnait la cour, enfin... Donc il a fallu que ce modèle-là disparaisse pour que s'installe un nouveau type de fonctionnement, qui n'est pas d'ailleurs le nôtre, parce que je vous ai montré ces changements comme ça perpétuels, mais enfin avec lequel il y a une certaine continuité. Donc c'est pour ça que c'était absolument impossible de parler de la mode depuis l'aube des temps.
Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais vous demander, par rapport à une réalité relativement récente sur les griffés qui sont en vente chez Tati, alors est-ce que ça a eu des effets néfastes ou positifs sur la mode? Je vous remercie. Parce qu'en fait, c'est génial, ça, c'est une démocratisation de la mode, n'est-ce pas? Et ça recherchait aussi à avoir des effets sur la mode de diffusion.
Oui, oui, oui.
Bon, est-ce que ça a été positif sur l'élaboration de la mode? Merci.
Écoutez... Moi, je pense que le fait que la mode se diffuse ne peut être en un sens que positive. Enfin, elle n'est ni positive ni négative, c'est un état de fait, si vous voulez. En tout cas, ça n'a rien de négatif. C'est simplement que l'ouverture de ce qui était d'abord fermé ou pyramidal, comme je vous ai dit, donc une mode qui était restreinte à certains milieux ou qui trouvait ses meilleures expressions dans ce milieu-là, ça n'existe plus et ça devient de plus en plus... les modèles se diffusent de plus en plus, si vous voulez. Ce qui me semble, moi, négatif, disons que ça limite les choses, c'est l'action de ces grandes firmes. Alors, ce n'est pas Tati, là, dont je parle, parce que Tati... Disons que Tati, ça se place à un autre niveau. Tati, c'est la traduction... des modèles de la couture dans la consommation générale. C'est une sorte d'effet secondaire de la mode, si vous voulez, ou de degré second de la mode dont je parlais, moi, qui est quand même, a priori, celle du prêt-à-porter de la couture. Bon, ce qui me semble... je ne sais pas si c'est dommageable, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, sujet à interrogation, c'est cette espèce d'opposition qui s'est installée maintenant entre les grands groupes... mondiaux, en fait, et ce qui était le prêt-à-porter traditionnel ou la fonction traditionnelle de la mode avec toutes les transformations qu'elle a subies. J'ai terminé sur ça parce que j'ai pu constater, moi, dans le domaine professionnel qui est le mien, qui est celui de l'édition, que quelque chose de similaire se passe, c'est-à-dire que la nécessité de... La nécessité commerciale, quand même, est de plus en plus affirmée et que il faut lutter pour imposer certains choix. C'est pareil, je n'ai pas de réponse pour plus tard. Je constate simplement que c'est quelque chose qui existe et qui est très présent actuellement et que c'est vrai que, personnellement, encore une fois, je ne vis pas de manière positive. Je ne trouve pas positif, mais peut-être que ça aura des effets positifs plus tard. Non, mais peut-être même sur là, vous savez, l'expression, on se débrouille toujours des contraintes. On arrive toujours à trouver... Donc, je me dis que peut-être ça va modifier le champ de la mode, mais qu'il y aura d'autres... Je pense, je pense très sincèrement qu'en effet, ces politiques de niche dont je vous ai parlé vont se développer, qu'il y aura une sorte d'essai, d'un côté une polarisation, enfin une massification, et de l'autre côté, je ne sais pas comment appeler ça, pas une nichification, mais enfin une espèce d'essaimage de niche comme ça, ou de cellules de création extrêmes, beaucoup plus restreintes, beaucoup plus adaptées, et qui retrouvent bizarrement un peu les couturières dont je vous parlais au début, qui étaient ce qui existait dans les... Il y a une cinquantaine d'années. Oui.
Une dernière question.
Vous venez d'y répondre un peu partiellement. C'est là. Voilà. Je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé justement de l'évolution du prêt-à-porter. Non, mais en termes de relation ou de compétition avec ce que vous avez, ce qui est la couture. C'est-à-dire, oui. La couture a-t-elle une influence sur le prêt-à-porter? Quel type d'influence a-t-elle eu? Et comment voyez-vous l'évolution entre les deux? Enfin, on la voit arriver, mais il y a quand même là une démocratisation par le haut, quand même, d'une certaine art de la couture. Et voilà, sociologiquement et par rapport au goût, il y a quand même là quelque chose qui a changé.
Oui. Écoutez, la couture, pour l'instant, mais comme vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est donné par les gens qui la font, les couturiers eux-mêmes, comme d'existence problématique. La couture apparaît pour le moment comme une sorte de laboratoire ou de cabine d'essayage de ce qu'on crée ensuite de façon moins complexe dans le prêt-à-porter. Donc, pour autant que je le sache, les couturiers qui fonctionnent encore sur le modèle, ou même s'il est transformé, le modèle traditionnel, utilisent la couture comme un atelier d'expression beaucoup plus proche de leur sensibilité que n'est le prêt-à-porter, qui est soumis à des contraintes de fabrication plus fortes. Ça concerne encore une fois les couturiers, je ne dirais pas traditionnels, mais qui suivent ce modèle-là. Je ne suis pas sûr que dans les grands pôles dont je vous parlais, ça fonctionne de la même manière. Ça, je n'ai pas assez d'informations pour vous répondre sur ce côté-là, si vous voulez. Je connais des couturiers... dont Christian Lacroix ou des gens comme ça, et je sais comment ils fonctionnent, et je sais que ça fonctionne comme ça pour eux. Alors, c'est vrai que, tout ça mis à part, le fait que la mode soit ainsi, que l'image de la mode soit ainsi multipliée est positive dans la mesure où elle diffuse les modèles de façon de plus en plus large. Et moi, ça, je ne vois que du bénéfice à cela, si vous voulez. Ce qui manque peut-être, c'est le discours sur cela. Bon. Mais peut-être qu'on n'en a plus l'usage ou plus besoin.
Dernière question, vraiment.
Madame. Je voulais vous demander, monsieur, est-ce que vous pourriez nous parler du dessin des voitures? Est-ce que la voiture, dans la mode, c'est un accessoire ou...
Ah oui. Écoutez, je n'ai pas traité du tout de ça. C'est que la voiture, c'est vraiment... C'est quelque chose qui appartient plutôt à l'ordre du design et du design industriel, et donc qui obéit à une logique totalement différente, je pense. Y a là des contraintes mécaniques même, donc on ne peut pas du tout établir de comparaison, enfin, me semble-t-il, ou en tout cas, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Là, malheureusement, c'est un type de fonctionnement que je ne connais pas du tout. Ouais. Mais il est clair que tous les éléments... de la vie quotidienne sont touchés par par les ressorts psychologiques de la mode au fond, mais il n'y a pas de comparaison entre le design industriel et la mode, qui est un petit design industriel si l'on pense au prêt-à-porter, mais quand même à une échelle extrêmement restreinte.
Patrick Moyes, merci.